Ivan Turgenev, Pietrushkov. En 1820 vivait à B, petite ville de la Russie méridionale, un certain Ivan Afanassievitch Pietrushkov, lieutenant dans un certain régiment de garnison. Fils de parents pauvres, il était resté orphelin à l'âge de 5 ans. Tombé entre les mains d'un tuteur et complètement dépouillé par celui-ci de son mince héritage, il dut aviser tant bien que mal au moyen de soutenir son existence. C'était un homme de taille moyenne et voûté. Il avait la figure maigre et couverte de taches de rousseur. Les traits du reste assez réguliers, les cheveux bruns, les yeux gris, le regard timide, le front bas et tout ridé. Ayant mené jusque-là une vie très uniforme, il conservait à 40 ans passés la naïveté, l'inexpérience d'un enfant, fuyait les nouvelles connaissances et traitait avec indulgence toutes les personnes sur lesquelles il avait le droit d'exercer quelque autorité. Les hommes, condamnés par le sort à une existence monotone et solitaire, ont ordinairement des manies. Pietrushkov aimait à manger tous les matins, à son déjeuner, une boulka blanche et sortant du four. Cette délicatesse lui était devenue indispensable. Cependant, un beau jour, son domestique Onésime lui apporta, au lieu de boulka, 3 craquelins d'un brun foncé sur une assiette mouchetée de petites fleurs bleues. Pietrushkov demanda aussitôt, d'un ton légèrement indigné, ce que cela signifiait. « Mais toutes les boulkas sont distribuées, lui répondit Onésime, franc pétersbourgeois, qu'un étrange caprice du sort avait jeté au fin fond de la Russie. « Impossible !» s'écria Ivan Afanievitch. « Il n'en reste pas une, répéta Onésime. Le maréchal donne aujourd'hui à déjeuner, elles sont toutes allées là-bas, comme de juste. » Ivan Afanievitch se promena un peu dans la chambre, puis il s'habilla et se dirigea lui-même du côté de la boulangerie. C'était le seul établissement de ce genre qu'il y eut dans la ville de B. Il avait été fondé 10 ans auparavant par un Allemand, et la veuve de ce dernier continuait à le gérer avec le plus grand succès. Pietrushkov frappa à la fenêtre. Une grosse femme montra au voisinage sa figure encore tout endormie. « Je voudrais avoir une boulka, » lui dit Pietrushkov d'un air aimable. « Il n'y en a plus, » répondit la grosse femme d'une voix piailleuse. « Vous n'avez plus de boulka ? Pas une. »« Mais c'est singulier, permettez. Je vous prends une boulka tous les jours et je vous paye exactement. » La boulangère le regarda sans dire mot. « Me prenez un craquelin ou une paplouka, » finit-elle par lui répondre en bâillant, en faisant un signe de croix sur sa bouche. « Mais je n'en veux pas, » lui dit Pietrushkov d'un ton piqué. « Comme il vous plaira, » murmura la grosse femme. Elle renferma brusquement le vasistas. Ivan Afanassievitch ressentit un vif mécontentement. Ne sachant quel parti prendre, il traversa la rue et s'abandonna comme un enfant à toute la contrariété qu'il éprouvait. Monsieur ! Cria tout à coup une voix assez agréable. Monsieur ! Ivan Ifanitchevitch se leva les yeux et aperçut au vasistas de la boulangerie une jeune fille de 17 ans environ, tenant à la main une boulka. Elle avait la figure ronde et pleine, les joues colorées, les yeux bruns et petits, le nez un peu retroussé, les cheveux châtain clair et les épaules magnifiques. L'ensemble de sa physionomie exprimait la bonté, la paresse et l'insouciance. « Tenez, monsieur, voici une boulka, » lui dit-elle en riant. « Je l'avais prise pour moi, mais je vous la cède. Prenez-la. »« Oh, bien des remerciements, permettez-moi. » Pietrushkov se mit à fouiller dans sa poche. « c'est bon, je vous la donne avec plaisir. » Elle referma le vasistas. Pietrushkov revint à la maison, on ne peut mieux disposer. Tu n'avais pas trouvé de boulka, dit-il à son domestique Onésime. Et moi, j'en ai rapporté une, tiens. Onésime sourit d'un air de dédain. Le même jour, Ivan Ivanovitch lui demanda, tout en se déshabillant pour se coucher, Dis-moi donc, frère, qui est cette fille que j'ai vue à la boulangerie? Et pourquoi voulez-vous le savoir, vous? Grommela Onissime en regardant de côté. Comme ça, répondit Petrouchkov en ôtant ses bottes sans l'assistance de son serviteur. Oh, c'est un beau brin de fille, reprit celui-ci. Oui, elle est pas mal, dit Ivan Vassilievitch en jetant les yeux du côté opposé. Et comment s'appelle-t-elle? Vassilissa. Et tu la connais? Oui, répondit Onésime après un moment de silence. Pietouchkov avait ouvert la bouche pour parler, mais il se retourna et s'endormit. Onésime passa dans l'antichambre, aspira une prise de tabac et hocha la tête d'un air capable. Le lendemain, Pietouchkov se disposa de très bonne heure à sortir. Onésime lui apporta la capote qu'il mettait habituellement. Elle était vieille, d'une couleur verdâtre et ornée d'un énorme paire d'épaulettes décolorées par le temps. Petouchkov regarda longtemps Onissime sans rien dire et finit par lui demander sa capote neuve. Onissime obéit, mais cet ordre parut le surprendre. Petouchkov acheva sa toilette et ajusta ses gants en peau de daim avec un soin tout particulier. « Il est inutile, frère, dit-il à Onésime avec un certain embarras, que tu ailles aujourd'hui chercher la boulka. J'irai moi-même. C'est sur mon chemin. »« C'est bien, lui répondit Onésime brusquement, comme si quelqu'un l'avait poussé par derrière. Pietouchkov se rendit à la boulangerie et frappa à la fenêtre. La grosse femme ouvrit le vasistas. « Ayez la complaisance de me donner une boulka. » dit lentement Ivan Afanasyevitch. La boulangère allongea par le vasistas son bras nu jusqu'à l'épaule, bras qu'à sa grosseur on aurait pu prendre pour une jambe, et mit presque sous le nez de Petrouchka une boulka presque encore chaude. Ivan Afanasyevitch demeura encore quelques instants sous la fenêtre, se promena un peu devant la maison, jeta les yeux dans la cour, et honteux de son enfantillage, finit par rentrer chez lui la boulka à la main. Pendant tout le reste de la journée, il ne se sentit pas à son aise, et le soir venu, il engagea peu de conversation avec Onissime, comme il avait coutume de le faire. Le lendemain matin, ce fut Onissime qui alla chercher la boulka. Plusieurs semaines se passèrent. Petrouchkov avait complètement oublié Vassilissa et s'était remis à converser amicalement avec son domestique. Un beau matin, il vit entrer chez lui M. Boublitsine, jeune homme fort aimable et au ton dégagé. On lui reprochait, il est vrai, de ne pas savoir toujours ce qu'il disait, mais c'était en un mot un évaporé. Mais on s'accordait à le trouver d'un commerce très agréable. Il fumait continuellement avec une animation fiévreuse, en levant les sourcils et en rentrant la poitrine. Il fumait d'un air préoccupé, ou plutôt d'un air qui semblait vouloir dire « Laissez-moi seulement aspirer cette dernière bouffée de tabac et je vais vous communiquer une nouvelle qui va vous surprendre. » Il lui arrivait parfois de gémir et d'agiter la main en se hâtant de finir sa pipe, comme s'il était venu subitement à l'esprit quelque chose de particulièrement intéressant. Mais, en ouvrant la bouche, il lançait un nuage de fumée en forme de cercle, disait quelques lieux communs, et souvent demeurait silencieux. Après avoir bavardé quelque temps avec Pietrouchkov sur les voisins, les chevaux, les filles des propriétaires du district, et sur d'autres sujets non moins dignes d'attention, M. Boublitsine se mit tout à coup à cligner les yeux, passa la main dans sa chevelure, Il s'approcha avec un malin sourire d'un miroir remarquablement terne, unique ornement de la chambre d'Ivan Afanassievitch. D'après tout, dit-il en caressant ses favoris, il faut convenir que nous avons ici de petites bourgeoises qui valent bien cette fameuse Vénus de Malditchi, par exemple. La boulangère Vassilissa, la connaissez-vous? Et ici, Boubicine aspira une bouffée de tabac. Petouchkov tressaillit. Au reste, reprit Boubicine en s'enveloppant d'un nuage de fumée, j'ai tort de vous faire cette question. Vous êtes un homme si... Dieu sait ce qui vous occupe, Ivan Afanassievitch. Mais nous avons, à ce que je crois, les mêmes occupations, répondit ce dernier d'une voix flûtée, non sans éprouver un peu de dépit. Oh, pour cela, non, mon bon ami, non. Mais comment vous dire pareille chose? Mais je serais curieux de savoir. Allons donc. Pourtant, Boublitsine posa sa pipe dans un coin de la chambre et se mit à examiner ses bottes fort peu élégantes. Petouchkov était très agité. C'est bon, continua Boublitsine, comme s'il eût voulu le ménager. Quant à Vassilissa, la boulangère, je me permets de vous dire qu'elle est jolie, fort jolie. Monsieur Boublitsine ouvrit les narines et enfonça lentement ses mains dans ses poches. Chose étrange, Ivan Afanassievitch ressentit un mouvement qui tenait de la jalousie. Il commença à se remuer sur sa chaise, se mit à rire sans motif, rougit subitement, et un mouvement convulsif de sa mâchoire trahit un bâillement. Boublitsine fuma encore trois pipes et prit congé de son hôte. Celui-ci s'approcha de la fenêtre, soupira et demanda à boire. Onisime posa un verre de kvass sur la table, regarda son maître d'un air maussade, s'appuya le dos contre la porte et baissa la tête. « À quoi penses-tu ? » lui demanda Petouchkov avec douceur, énonçant d'une certaine inquiétude. « À quoi je pense ? » répondit Onisime. « À quoi ? Mais toujours à vous ?» À moi, certainement, à vous. Et que penses-tu? Ben, c'est ce que je pense. Vous devriez être honteux, monsieur, oui, honteux. Et de quoi? De quoi? Ivan Afanassievitch, voyez un peu monsieur Boublitsine. Qu'est-ce qui lui manque? Il est tout à fait bien. Ben, je ne te comprends pas, frère. « Oh, si fait, vous comprenez !» Onisime garda un moment le silence. « Monsieur Boublitsine est un véritable monsieur, un monsieur tout à fait comme il faut. Et vous, vous ? Moi aussi, je suis un monsieur. »« un monsieur, » répéta Onisime, en s'animant de plus en plus. « Un beau monsieur, vraiment. Mais vous êtes une vraie poule mouillée, oui, oui. » Vous restez planté là toute la journée du bon Dieu. Ça vous avancera beaucoup. Vous ne jouez pas aux cartes, vous ne fréquentez pas les messieurs, et quant à... Bonissime brossa les épaules. Ah, pourtant, je crois vraiment que tu vas un peu trop loin, dit Petouchkov, en prenant sa pipe d'un air embarrassé. Trop loin, Ivan Afanassievitch, trop loin. Jugez-en vous-même. Tenez par exemple, voilà Vassilissa. Pourquoi pas? Mais ne va pas t'aviser de penser, Onisime, s'écria Petrouchkov avec une sorte d'anxiété. Bon, je sais bien ce que je pense. Pourquoi pas? Eh bien, la grâce de Dieu, mais vous n'en ferez rien. Avouez-le, vous êtes. Petrouchkov se leva. Allons, allons, tu ferais bien de te taire, dit-il avec vivacité. Et en évitant le regard d'Onisime. Moi aussi, je suis, tu le sais bien, Oh, c'est pas trop fort, donne-moi plutôt de quoi m'habiller. Onisime aida lentement Petouchkov à se dépouiller de sa robe de chambre tartare, couverte de taches, jeta sur lui un regard de compassion paternelle, hocha la tête et se mit à lui fouetter le dos avec une époussette. Pietrushkov sortit et, après avoir erré quelque temps au milieu des rues tortueuses de la ville, il se dirigea du côté de la boulangerie. Un étrange sourire errait sur ses lèvres. À peine avait-il eu le temps de jeter deux ou trois fois les yeux sur cet établissement que la petite porte de la cour s'ouvrit et Vassilissa sortit en courant dans la rue, un douché Glaïka jeté sur ses épaules à la manière russe et coiffé d'un mouchoir jaune. Pietushkov s'empressa de l'aborder. « Où allons-nous comme ça, ma tourterelle ?» Vassilissa jeta un coup d'œil rapide et se mit à rire, détourna la tête et se couvrit la bouche avec sa manche. « Vous allez sans doute faire une petite emplette, » reprit Pietushkov en souriant. « Mais comme nous sommes curieux, » répondit Vassilissa. « Mais allons du tout, » continua Pietushkov en remuant les bras avec vivacité. « Non, c'est tout le contraire, En général, vous savez, » ajouta-t-il précipitamment, comme si ces derniers mots exprimaient parfaitement sa pensée. « Avez-vous mangé, ma petite boulka ?»«
Assurément, » répondit Petrushkov, « et avec un plaisir tout particulier. »
Vassilissa continuait à marcher en trottinant.
« Il fait aujourd'hui un temps bien agréable, » reprit Petrushkov.
« Vous aimez donc à vous promener souvent ?»«
Oui, assez souvent. »«
Oh, je serais bien heureux si... »«
Comment ?»
reprit Vassilissa de ce ton clair particulier à nos jeunes filles et qui rappelle un peu le chant matinal de la perdrix.
« Ben, si m'était permis de me promener avec vous, hors de la ville, par exemple. »«
Mais impossible !»«
Pourquoi donc ?»
Oh, comme vous êtes!
Permettez! »
Il s'interrompit pour laisser passer un jeune marchand à la barbe pointue, revêtu d'une longue tunique bleue, dont il retenait les longues manches en écartant les doigts et portant un bonnet fourré qui avait la forme d'un melon d'eau. Aussitôt que cet important les eut dépassés, Pietrushkov se rapprocha de Vassilissa.
Eh bien, je reviens à ma proposition!
Vassilissa le regarda d'un air malin et se remit à rire.
« Vous êtes de la ville ?»«
Oui. » Vassilissa passa la main sur ses cheveux et ralentit le pas. Ivan Afanassievitch sourit, et quoiqu'il mourût de peur intérieurement, il se pencha et enlaça de son bras tremblant la taille de la jeune fille. Celle-ci poussa un petit cri.
« Mais comment? N'avez-vous pas honte dans la rue ?»«
Laissez donc, laissez !» balbutia Pietrushkov.
« Mais finissez, on vous le répète. Nous sommes dans la rue, respectez le monde. »«
Mais mon Dieu, comment pouvez-vous ?» dit Pietrushkov d'un ton de reproche, et il rougit lui-même jusqu'aux oreilles. Vassilissa s'arrêta.
« Allez-vous-en, monsieur. Passez votre chemin. »
Pietrushkov obéit. Il revint à la maison, resta assis sur une chaise durant une heure au moins, immobile et sans songer même à fumer. Puis il prit une feuille de papier grisâtre, tailla une plume, et après de longues réflexions, écrivit la lettre suivante. « Chère mademoiselle Vassilissa Timofeyevna, étant de ma nature un homme inoffensif, comment aurais-je pu vouloir vous occasionner quelques désagréments? Si je suis vraiment coupable à vos yeux, je vous dirai nommément que la faute en est au propos de M. Boublitsyn. Oui, c'est ce qui est tout à fait contraire à mes habitudes. » Ensuite, je vous prie instamment de me pardonner. Je suis un homme sensible et me sens toujours très touché et très reconnaissant et très sensible. Ne m'en voulez pas, Vassilissa Timofeyevna, je vous en supplie. Au reste, je suis avec respect, votre très dévoué serviteur, Ivan Pitouchkov. Onissime porta cette lettre à son adresse. 2 semaines se passèrent. Onissime se rendait chaque matin, comme d'habitude, à la boulangerie. Un jour, Vassilissa courut à sa rencontre. « Bonjour, Onissime Sergeïevitch, » lui dit-elle. Onissime se renfrogna, lui dit d'un ton bourru. « Bonjour. Pourquoi n'entrez-vous donc jamais chez nous, Onissime Sergeïevitch ? À quoi bon ? Tu me régalerais sans doute pas d'une tasse de thé. » « Si fait, Onissime Sergeïevitch, si fait, venez seulement, vous aurez du thé, du rhum. J'ai tant de respect pour vous. » La figure d'Onissime s'épanouit peu à peu. « Bon, alors, nous verrons. Quand ça, père ? Mais quand ça, Mélie, tiens, venez ce soir. Est-ce convenu, allez, venez. Je veux bien ce soir. » Et il reprit le chemin de la maison du pas lent et grave d'un diplomate qui vient d'entamer une grande négociation. Dans la soirée du même jour, Onissime et Vassilissa étaient assis en face l'un de l'autre dans une petite chambre devant une table boiteuse auprès de laquelle se trouvait un lit couvert d'un traversin rayé. Un énorme samovar d'un jaune terne ronflait et chantait sur la table. Un pot de géranium se dressait devant la fenêtre. Dans un coin, près de la porte, était placé de travers un coffre cerclé de fer auquel pendait un cadenas de très petite dimension. Sur le coffre se trouvait entassé de vieux linge. Au mur de la chambre pendaient quelques mauvaises gravures, toutes noircies. Onissime et Vassilissa buvaient du thé silencieusement. Ils se regardaient fixement en tournant avec lenteur entre leurs doigts de petits morceaux de sucre auquel il donnait un coup de dent comme un contre-cœur et aspirait ensuite, avec un petit sifflement, l'eau chaude et jaunâtre qui était dans leur tasse. Ayant enfin vidé tout le samovar, ils renversèrent les tasses dans leur soucoupe, et l'une de ces tasses portait ces mots « pour la satisfaction ». L'autre « elle m'a innocemment percé ». Après quoi, ils toussèrent un peu pour s'éclaircir la voix, essuyèrent la sueur qui couvrait leur front, et se mirent à causer. « Pourquoi votre maître, Onissime Sergeïevitch ?» demanda Vassilissa, et elle s'interrompit. « Pourquoi mon maître ?» répondit Onissime en s'appuyant le menton sur la main. « On sait bien pourquoi. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?»«
Rien, » reprit Vassilissa.
« Mais ne vous a-t-il pas ?» Onissime se reprit. « Il vous a envoyé une lettre. »«
Oui ?»
Onissime secoua la tête d'un air de satisfaction bien marqué. « Voyez-vous ça ? » dit-il d'une voix rauque et en ricanant. « Et qu'est-ce qu'il vous a écrit ?»«
Aux différentes choses. Que je suis mademoiselle Vassilissa, comme ça. » Il me faudrait bien me garder, mademoiselle, de vous offenser, beaucoup de ces sortes de choses. Comment est-ce qu'il est, votre maître ? Ajouta-t-elle un instant après.
C'est un homme, répondit Onissime avec indifférence.
A-t-il un mauvais caractère ?
Lui, oh, bien oui, il vous plaît ?
Vassilissa baissa les yeux et se mit à rire dans sa manche.
« Veux-tu répondre ?» grommela Onissine.
« Mais pourquoi voulez-vous le savoir, Onissime Sergeïevitch ?»«
Alors parle, te dit-on. »«
Eh bien, » reprit Vassilissa, « c'est un maître, il s'entend bien mieux que moi. Et d'ailleurs, lui, vous savez vous-même. »«
Certainement que je le sais, » répondit Onissine avec importance.
« Vous savez fort bien, Onissime Sergeïevitch. »
Vassilissa commençait à paraître émue.
« Bien, dites-lui donc à votre maître que je ne suis pas comme ça, fâchée contre lui, mais que pour le reste... »
Elle se troubla tout à fait.
« On comprend, » répondit Onissine,
et il se leva lentement.
Vous comprenez. Merci pour votre honnêteté de ce soir.
Vous serez toujours le bienvenu.
C'est bien, c'est bien. Onisime se dirigea vers la porte. La grosse boulangère parut au moment où il allait sortir.
« Bonjour, Onisime Sergeïtch, » dit-elle d'une voix traînante.
« Bonjour, Praskovia Ivanovna, » lui répondit-il sur le même ton. Tous deux se tinrent quelques instants immobiles.
« Alors, adieu, Praskovia Ivanovna, » dit Onisime d'une voix traînante.
« Alors, adieu, Onisime Sergeïtch, » répondit cette dernière sans changer de ton.
Onisime revint à la maison. Pietushkov était étendu sur son lit, les yeux fixés sur le plafond.
« D'où viens-tu ?
D'où je viens ?»
Onisime avait l'habitude de répéter d'un air de blâme les derniers mots de toutes les questions qu'on lui adressait.
« Je suis sorti pour votre affaire. »
« Pour quelle affaire ?»«
Vous ne savez pas, j'ai vu Vassilissa. »
Pietushkov se tourna sur son lit.
« Ben voilà justement la chose, » dit Onisine en aspirant gravement une prise de tabac. « Ben oui, voilà justement la chose. Vous n'en faites jamais d'autre. Vassilissa vous salue. »«
Est-ce possible ?
Est-ce possible ? C'est justement ça. Est-ce possible ?»
Elle vous fait demander pourquoi vous n'allez pas la voir.
Oui, pourquoi vous n'y allez pas.
Et qu'as-tu répondu?
Ce que j'ai répondu, moi, je lui ai dit, tu es bien bête en vérité. Des messieurs comme lui n'iront pas chez toi.
Non, c'est à toi de venir.
Et qu'a-t-elle répondu?
Ce qu'elle a répondu, elle, rien.
Comment ça, rien?
Oui, certainement, rien.
Pietushkov se tut. Et elle viendra, reprit-il bientôt après.
Onisime secoua la tête.
Elle viendra, mais vous êtes joliment expéditif, monsieur, elle viendra.
Non, non, vous êtes pas trop comme ça.
Mais tu viens de me dire toi-même comme ça.
Oh, du bien les choses comme ça.
Pietushkov se tut de rechef.
Et comment donc faire, reprit-il.
Comment faire? Vous devez le savoir mieux que moi, vous êtes un maître.
Allons donc, il s'agit bien de cela.
Onisime se dandina d'un air satisfait.
Ben, vous connaissez Praskovia Ivanovna, dit-il enfin.
Non, quelle Praskovia Ivanovna? La boulangère.
Ah oui, la boulangère.
Oui, je l'ai vue, une grosse femme.
Une femme conséquente, c'est la propre tante de l'autre, de la vôtre.
Sa tante.
Vous ne saviez pas?
Non, je ne le savais pas.
Onisime n'en dit pas plus long par respect pour son maître.
Voilà avec qui vous devriez faire connaissance.
Pourquoi cela? Je le veux bien.
Onisime regarda Ivan Afanasyevitch d'un œil approbateur.
« Mais pourquoi ferais-je sa connaissance ?» demanda Pietushkov.
« Oh, voilà une belle !» lui répondit Onisime.
Ivan Afanasyevitch se leva, marcha un peu dans la chambre, s'arrêta devant la fenêtre et dit avec un certain embarras, sans tourner la tête, « Onisime, voilà. Est-ce que ça ne sera pas un peu, tu me comprends, un peu singulier pour un officier ?» d'aller trouver cette grosse mère, hein?
Oh, c'est votre affaire. Aurais-je, je le demande seulement comme une réflexion générale.
Les camarades pourraient le savoir, c'est toujours un peu...
Ben, j'y penserai, allez, donne-moi ma pipe.
Ainsi donc, elle a dit, reprit-il après un moment de silence. Ben, Silissa t'a donc dit...
Mais Onisime, ne se souciant pas de continuer la conversation...
avait repris l'air maussade qui lui était habituel. La connaissance d'Ivan Afanievitch et de Praskovia Ivanovna se fit de la manière suivante. 4 ou 5 jours après la conversation qu'il avait eue avec Onisime, Pietushkov se rendit le soir à la boulangerie.
Ben allons, pensait-il en faisant crier la petite porte de la cour. Nous verrons si on arrivera. Il monta l'escalier et ouvrit la porte de la maison. Une énorme poule huppée passa entre ses jambes en jetant des cris étourdissants et courut longtemps après dans la cour d'un air agité. La figure étonnée de la grosse boulangère se montra à l'entrée de la chambre voisine. Ivan Afanasievitch sourit et hocha la tête. La boulangère le salua. Pietushkov s'approcha d'elle en serrant fortement sa casquette. Praskovia s'attendait naturellement à recevoir une visite honorable. Toutes les agrafes de sa robe étaient accrochées. Pietushkov s'assit sur une chaise et Praskovia se plaça en face de lui. « Je viens vous voir, Praskovia, surtout pour... » dit enfin Ivan Afanasievitch, et il se tut. Un mouvement convulsif contracta ses lèvres. « Mais soyez le bienvenu, père, répondit Praskovia avec un profond salut. On fait bon accueil à tout le monde chez nous. » Pétouchkov reprit un peu courage. « Mais il y a longtemps que j'avais le désir de faire votre connaissance, Praskovia Ivanovna. »« Je vous suis bien obligé, Ivan Afanasievitch. » Les deux interlocuteurs se turent. Praskovia s'essuyait la figure avec un mouchoir. Pétouchkov regardait attentivement d'un autre côté. Tous deux se sentaient embarrassés. Au reste, parmi les marchands et les bourgeois, il est d'usage, même entre anciens amis, de se livrer à différentes contorsions cérémonieuses lorsqu'ils se rencontrent, et une certaine roideur d'abord entre un hôte et son visiteur paraît non seulement fort excusable, mais tout à fait convenable, surtout dans une première entrevue. Pietushkov plut à Praskovia. Il avait à ses yeux une tenue digne et modeste. D'ailleurs, c'était un homme de la classe supérieure. « J'aime beaucoup vos boulkas, Praskovia Ivanovna. »« Oh, vraiment, c'est fort bien. »« Oui, elles sont très bonnes, elles sont vraiment excellentes. »« Mangez-en, père, oh, puissent-elles vous faire du bien. »« Nous le souhaitons de bon cœur. »« Moi, je n'en ai pas même mangé d'aussi bonnes à Moscou. »« Oh, vraiment, c'est fort bien. » Une nouvelle pause suivit ces paroles. Dites-moi donc, reprit Ivan Afanasievitch, n'est-ce pas une nièce qui demeure chez vous?
Ma propre nièce, père.
Et qu'est-ce que vous en faites?
Elle est orpheline et nous l'avons recueillie.
Ah, c'est donc une ouvrière?
Oui, une ouvrière, une excellente ouvrière. Certainement, père, oui, certainement.
Ivan Afanasievitch ne jugea pas à propos de pousser plus loin ses questions sur la nièce. Quel est donc l'oiseau que vous avez dans cette cage?
Dieu le sait, c'est un oiseau.
Ah, très, très bien. Bon, adieu, Praskovia Ivanovna.
Vous recevez mes humbles salutations, votre honneur. Daignez revenir nous voir pour prendre du thé.
Avec un sensible plaisir, Praskovia Ivanovna. Pietushkov partit. Il rencontra sur l'escalier Vassilissa qui se mit à rire. « Et d'où venez-vous donc, ma tourterelle ?» lui demanda Pietushkov d'un ton assez gaillard.
« Allons, finissez, finissez, enjôleur que vous êtes.
Eh, vous avez reçu ma lettre ?» Vassilissa cacha le bas de sa figure dans sa manche et ne répondit rien. « Et vous ne m'en voulez plus ?»
« Vassilissa !» cria la boulangère d'une voix retentissante. « Vassilissa !»
La jeune fille entra précipitamment et Pétouchov reprit le chemin de la maison. À partir de ce jour, il se rendit souvent à la boulangerie et ce ne fut pas inutilement. Ivan Afanasievitch atteignit son but, comme on le dit dans le style élevé. Ordinairement, ce résultat refroidit. Mais Pétouchkov, au contraire, s'enflammait de plus en plus. L'amour est le fruit du hasard, il existe par lui-même comme l'art. Il n'a pas besoin d'être justifié, pas plus que la nature, a dit je ne sais quel homme d'esprit allemand, qui, sans avoir jamais aimé lui-même, raisonnait fort bien sur cette question. Pietouchkov s'est pris passionnément de Vassilissa, et il était parfaitement heureux. Il transporta bientôt tout son attirail, ou du moins toutes ses pipes, chez Praskovia, et y passait des journées entières dans la chambre du fond. Il payait à Praskovia son dîner et son thé. Aussi ne se plaignait-elle pas de sa présence. Vassilissa s'était habituée à lui. Elle travaillait, chantait, filait à côté de lui et lui adressait de temps en temps deux ou trois mots. Pietouchkov la regardait, fumait, se balançait sur sa chaise et jouait avec elle et avec Praskovia au douraki dans ses moments de loisir. Oui, Pietouchkov était heureux. Mais il n'y a rien de parfait en ce monde, et quelque borné que soient les désirs d'un homme, jamais le sort ne les exauce entièrement. Il les trouble même, si c'est possible. La cuillerée de goudron finit toujours par tomber dans le tonneau de miel. C'est ce dont il fut donné à Pietouchkov de faire la triste expérience. En premier lieu, depuis le jour de sa liaison avec Vassilissa, ses camarades lui devinrent encore plus étrangers. Il ne les voyait que dans les cas indispensables, et alors, pour éviter les allusions et les plaisanteries, ce qui du reste lui réussissait pas toujours, il prenait l'air effaré d'un lièvre jouant du tambour au milieu d'un feu d'artifice. En second lieu, Onissime, qui avait perdu toute considération pour lui, ne le laissait pas en repos. On pourrait dire qu'il s'acharnait après lui. En troisième lieu, enfin. Hélas, veuillez continuer ce récit, lecteur bienveillant. Un jour, Pietouchkov, il ne se trouvait pas à son aise hors de chez Praskovia, pour les raisons que nous venons de rapporter, était assis dans la petite chambre du fond, habité par Vassilissa et s'occupait de préparations domestiques, confitures et infusions spiritueuses. La boulangère était sortie et Vassilissa, qui la remplaçait, chantonnait dans la pièce voisine. Quelqu'un frappa au vasistas. Vassilissa se leva, s'approcha de la fenêtre, jeta une exclamation de surprise et se mit à rire et à chuchoter avec une personne qui était dans la rue. Ayant repris sa place, elle soupira et se remit à chantonner plus haut qu'auparavant. « Avec qui viens-tu de parler ?» lui demanda Pietouchkov. Vassilissa continua à chanter. « Vassilissa, tu ne m'entends donc pas, Vassilissa. Que voulez-vous ? Mais avec qui viens-tu de parler ? Mais qu'est-ce que ça vous fait ? Oh, voilà qui est un peu fort !» Pietouchkov passa dans sa chambre. Il avait une arcalouque de couleur dont les manches étaient retroussées et tenait un entonnoir à la main. « Viens avec un de mes bons amis, » dit alors Vassilissa. « Qui cela ?»« Avec Peter Petrovitch. » « Peter Petrovitch, mais quel Peter Petrovitch ?»« Bon, c'est un monsieur comme vous. Il a un drôle de nom. »« Boublitsine ?» « Oui, Peter Petrovitch. Tu le connais donc ?»« Si je le connais !» s'écria Vassilissa avec un mouvement de tête. Pietouchkov fit plus de 10 tours dans la chambre sans ouvrir la bouche. « Écoute, Vassilissa, » dit-il enfin, « de quelle façon le connais-tu »«
De quelle façon je le connais ? Je le connais. C'est un monsieur si gentil. »
« Mais gentil, comment cela ? Comment est-il gentil, hein ?»
Vassilissa regarda Ivan Afanasievitch.
« Gentil ? » répéta-t-elle lentement et d'un air étonné. « Ça se comprend. »
Pietouchkov se mordit les lèvres et se remit à marcher dans la chambre.
« Et de quoi avez-vous causé, hein ?»
Vassilissa sourit et baissa la tête.
« Mais parle, parle donc, on dit de parler. »«
Oh, mais que vous êtes méchant aujourd'hui, » dit Vassilissa.
Pietouchkov ne répondit pas.
Eh bien, soit, Vassilissa, reprit-il, ne me fâcherai pas, allez, mais dis-moi de quoi vous avez causé.
Vassilissa se mit à rire.
Il est si plaisant, Peter Petrovitch, vrai.
Mais comment ça?
Oui, si plaisant.
Pietushkov resta de nouveau silencieux. Vassilissa, dit-il enfin, m'aimes-tu bien?
Alors, vous aussi, vous le demandez.
Cette dernière réponse fit frémir le pauvre Petrushkov jusqu'au fond du cœur. Praskovia rentra et on se mit à table. Après le dîner, la boulangère entra dans la soupente. Ivan Afanissievitch s'étendit sur le four et dormit. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait avec précaution le réveilla. Il se souleva un peu en s'appuyant sur les coudes et promena les yeux autour de lui. La porte était entr'ouverte. Il sauta en bas du four. Vassilissa n'était pas là. Il se précipita dans la cour. Elle ne s'y trouvait pas non plus. Il ouvrit la porte qui donnait sur la rue et regarda de tous côtés sans apercevoir Vassilissa. Il courut nu-tête jusqu'à la place du marché. Rien. Il rentra lentement dans la boulangerie, monta de nouveau sur le four et s'y coucha la figure contre le mur. Il avait le cœur oppressé. Boublitsine, Boublitsine. Ce nom semblait revenir à son oreille.
« Qu'as-tu donc, père ?» lui demanda Praskovia d'une voix endormie. « Pourquoi soupires-tu »«
Non, c'est rien, rien, j'étouffe un peu. »
« Ce sont les champignons, marmotta Praskovia, les champignons. Oh, Seigneur, ayez pitié de nous, pauvres pêcheurs. »
Une heure, deux heures se passèrent, toujours point de Vassilissa. Pietushkov fut plus de 20 fois sur le point de se lever, et 20 fois il se blottit, tout découragé, sous son touloupe. Il finit cependant par se décider à retourner chez lui. Mais après avoir fait quelques pas dans la cour, il rentra. Praskovia se leva. Son ouvrier Luka, noir comme un scarabée, quoiqu'il fût boulanger, mettait les pains dans le four. Pietushkov sortit de nouveau sur l'escalier et se prit à réfléchir. Un bouc qui habitait la cour s'approcha et lui donna amicalement un petit coup de corne. Pietushkov le regarda et lui dit: Dieu sait à quel propos.
Kiss, kiss.
La petite porte de la cour s'ouvrit tout à coup sans bruit et Vassilissa parut. Ivan Afanievitch s'avança à sa rencontre d'un pas délibéré, la prit par la main, lui dit avec calme mais avec décision:
Suis-moi.
Permettez, Ivan Afanievitch,
suis-moi, répéta-t-il.
Elle lui obéit. Pietushka la conduisit dans son logement. Onisine dormait, comme il en avait l'habitude, étendu tout son long. Ivan Afanasievitch le réveilla et lui dit de donner une lumière. Vassilissa s'approcha de la fenêtre et s'y assit en silence. Pendant qu'Onisine tournait dans l'antichambre, Pietushkov se tenait immobile près de l'autre fenêtre et regardait dans la rue. Onisime apporta la lumière et se mit à grogner. « Va-t'en !» lui dit son maître. Onisime s'arrêta au milieu de la chambre.
« Va-t'en, et tout de suite !»
répéta Pietushkov avec sévérité. Onisime le regarda et sortit.
« Dehors !» lui cria Ivan Afanievitch. « Tout à fait, tu rentreras dans 2 heures. »
Onisime partit immédiatement. Pietushkov attendit que le bruit de la porte de la cour se fît entendre. Puis il s'approcha vivement de Vassilissa.
« Où es-tu allé ?»
Vassilissa se troubla.
« Où es-tu allé ? Veux-tu me répondre ?»
Vassilissa promena les yeux autour d'elle.
« C'est à toi que je parle. Où es-tu allé ?»
En achevant ces mots, Pietushkov semblait prêt à lever la main.
« Ne me battez pas !» Ivan Afanasievitch, ne me battez pas,
balbutia Vassilissa épouvantée.
Petouchkov se détourna. « Te battre, non, je ne te battrai pas, te battre. »« Ah bien, oui, ma tourterelle, que le bon Dieu te bénisse. » Lorsque je pensais que tu m'aimais, lorsque... Ivan Afanassievitch s'arrêta, il étouffait. Écoute, Vasilissa, lui dit-il enfin, je suis bon, tu le sais, n'est-ce pas?
Je le sais, répéta-t-elle en hésitant.
Je ne fais de mal à personne au monde, et je ne trompe personne. Alors pourquoi donc me tromper?
Je ne vous trompe pas, Ivan Afanassievitch.
Tu ne me trompes pas, c'est ce que nous allons voir. Dis-moi, où es-tu allé?
Mais j'ai été chez Matrena. Demandez-le lui si vous ne le croyez pas.
Et boum, enfin, comment déjà, ce diable, l'as-tu vu?
Oui.
Tu l'as vu? Ah, tu l'as vu? Ah, tu l'as vu? Petouchkov pâlit. C'est donc le rendez-vous que vous avez arrangé ce matin à la fenêtre, hein?
Mais il m'a prié de venir.
Et tu n'y as pas manqué. Bien obligé, ma petite mère, bien obligé.
Petouchkov salua profondément Vasilissa.
Vous croyez peut-être, Ivan Afanassievitch?
Oh, tu vaut mieux te taire, au reste, je suis bien bête aussi. Tu peux voir qui te plaît, je ne tiens pas à toi. Oh, par exemple, je ne veux plus te connaître.
Vasilissa se leva.
Comme il vous plaira, Ivan Afanassievitch.
Où vas-tu?
Ne m'avez-vous pas?
Je ne te chasse pas, reprit Petouchkov.
Non, non, il vaut mieux m'en aller. Pourquoi resterais-je ici?
Petouchkov la laissa faire quelques pas.
Alors tu t'en vas donc, Vasilissa.
Vous me faites toujours de la peine.
De la peine, tu ne crains pas Dieu, Vasilissa, tu ne crains pas Dieu? Quand est-ce que je t'ai fait de la peine? Dis-le donc, quand cela?
Vous avez manqué me battre tout à l'heure.
Vasilissa, tu devrais avoir honte. C'est un péché, ce que tu dis là.
Et vous m'avez dit que vous ne vouliez plus me connaître. Je suis un maître, moi, et toi, tu es une servante, m'avez-vous dit.
Ivan Afanassievitch se mit à se tordre les doigts en silence.
Vasilissa se trouvait déjà au milieu de la chambre. « Eh bien, que Dieu vous accompagne, Ivan Afanassievitch. Allons chacun de notre côté. »«
Tais-toi, Vasilissa, tais-toi !» s'écria Petouchkov. « Regarde-moi plutôt. »« Je ne suis plus reconnaissable, je ne sais plus ce que je dis. »« Tu devrais au moins avoir pitié de moi. »«
Vous me grondez toujours. »«
Oh, Vasilissa !» Que celui qui rappellera le passé perd un œil. Allez, est-ce dit, voyons, tu ne m'en veux plus.
Mais vous m'offensez toujours.
Je ne le ferai plus, ma chérie, je ne le ferai plus. Pardonne à un ancien, pauvre diable. Non, cela ne m'arrivera plus jamais. Me pardonnes-tu?
Dieu vous pardonnera, Ivan Afanassievitch.
Alors, ris un peu, ris donc.
Vasilissa se détourna.
« Elle a ri, ma colombe, elle a ri !» s'écria Petouchkov.
Et il se mit à sauter comme un enfant.